11 heures passées de quelques instants à Davedi, à environ 1 kilomètre de Gbatopé, dans la préfecture de Zio, même heure à Lomé, d'où nous émettons depuis Anoukopé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci. Avec le générique, vous avez compris sans doute que vous êtes dans l'émission Club de la Presse et c'est parti alors pour 90 minutes de débat et d'analyse sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Michel Kokou-Vitokbe-Tomega est à la mise en onde de cette émission. Géraud Akoucha sur la mise en ligne. Je suis votre serviteur, Pascal Lossou. L'émission Club de la Presse, ça se passe bien évidemment aussi avec nos radios partenaires. Radio Lumière, à Nehor Radio La Paix, à Takpamé, Central FM, à Sokodé, Radio Daoul, à Bassa, Sama FM, à Niamtougou, et puis dans le grand nord du pays, à Dapaon, Radio Courtoisie. Nous n'allons pas oublier nos différentes plateformes numériques et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins, grâce à qui vous pouvez nous suivre alors partout dans le monde entier. Club de la Presse, c'est bien sûr avec le débat, l'analyse et le commentaire, aussi les décryptages de l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec nos confrères journalistes en studio avec nous et aussi les invités, confrères journalistes présents déjà sur ce plateau avec moi, c'est Jacques Dakouti. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, bonjour aux auditeurs auditrices de Canal FM. Je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer Sass Gaou, qui nous écoute actuellement. Je lui ai rendu visite hier dimanche.
Voilà.
Je le salue, son épouse et ses enfants. Et profiter également de l'occasion pour interpeller, Pascal, si tu le permets,
justement,
le responsable de l'ANR. Je ne sais pas si c'est le commandant Tchakpele, toujours qui est le responsable de l'ANR. L'inviter spécialement à revoir l'axe, la route de la présidence. Pascal Lossou, il y a un sérieux problème là-bas, il y a un problème de braquage au niveau de ce axe-là. Il faudrait que le responsable de l'ANR, celui qui est chargé de renseignements, puisse s'occuper de cette voie, parce que nos compatriotes se plaignent beaucoup, surtout sur cet axe-là, on les braque souvent, on essaie souvent par machette, souvent par des armes à feu. On attaque nos compatriotes sur cet axe-là. Donc, sincèrement, inviter la sécurité présidentielle à veiller sur cette voie-là, parce que c'est la voie où le président emprunte, et dire que une voie empruntée par le président de la République, qu'on puisse avoir des braqueurs sur cette voie-là, ça fait peur.
Donc, et justement, c'est surprenant.
Oui, justement.
Le président de la République passe par cette voie.
Et puis, il faut reconnaître que la présidence n'est même pas loin de là. La présidence est à côté de là, et dire que il y a des braqueurs sur cette voie-là. Sincèrement, inviter la sécurité présidentielle à veiller sur ce sac-là, parce que c'est un peu de trop. Vous savez, quand vous dépassez un peu Togo Télécom pour aller vers le ministère de la Justice avant d'atteindre la présidence, et lorsque vous quittez, par exemple, également l'autre côté vers l'Assemblée nationale pour venir vers la présidence, l'axe-là est vraiment très, très, très dangereux. Il faudrait que, comme je le disais, tu as interpellé les services de sécurité de la présidence à veiller sur cet acte-là afin de mettre hors d'état de nuire tous ces braqueurs-là qui dérangent nos populations. Et lorsque vous passez sur cette voie-là, vraiment, c'est pas facile, Pascal. J'ai eu des amis qui ont été victimes, qui ont été attaqués à coups de machette sur cette voie-là. Sincèrement, que la sécurité présidentielle veille sur cet axe-là, surtout à la sécurité du président qui n'est pas loin, qui travaille non loin effectivement de cette voie-là.
Jacques, le message est passé. Je pense quand même que tous ceux qui sont là pour la sécurité même d'ailleurs de notre pays, je pense quand même que le message est tombé dans de bonnes oreilles et ça aura son effet. C'est important. Alors, l'autre confrère qui nous a rejoint dans cette émission, c'est Didier Assogba. Didier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Et bonjour Alain et Jacques en studio.
Et le week-end, comment ça s'est passé? C'est bien passé?
Oui, ça va, Dieu fait grâce.
C'est l'essentiel.
Alors, Pascal, tu me permets,
Jacques,
sûrement rectifier. Au fait, c'est le colonel Tchakpele.
Le colonel
Tchakpele. Au lieu du commandant.
Voilà,
c'est
fait.
Le colonel Tchakpele.
D'accord.
Dont on invite effectivement prendre ses responsabilités pour réguler cette voie-là.
La précision est importante. Alors, c'est vrai que déjà dans ce week-end, nous avons suivi des fêtes traditionnelles, puisque je voudrais quand même qu'on ouvre cette émission avec la culture, des fêtes traditionnelles. Le samedi dernier, déjà, il y a Adinou Cousin dans le Vau. Où le Premier ministre même a représenté le chef de l'État là. Et il y a Davidi également, Davidi à un kilomètre de Batopé. Nous sommes dans la préfecture de Zior. Et là aussi, il y a Tizan. Et je sais que dans d'autres localités aussi du pays, il y a eu vraiment la fête traditionnelle, puisque nous sommes au moment où, à l'époque même d'ailleurs de ces fêtes traditionnelles, souvent c'est les mois d'août, septembre, d'habitude, c'est ce que nous constatons. Jacques, quand on prend ces fêtes traditionnelles, d'habitude, ce qui est dit, c'est pour la cohésion sociale. Et je pense quand même que c'est très important.
Très, très, très important. J'ai suivi le week-end un peu la fête au niveau de Vaughan. Il est vrai qu'il y a un technicien qui est ici, qui ne nous a pas invités. Mais on a quand même suivi ce qui s'est passé au niveau de Vaughan. Et on a vu la PM qui était présente. Vraiment, c'est, comme vous l'avez si bien dit, c'est vraiment une cohésion. J'ai vu également certains responsables des partis politiques qui étaient également de la fête. On sent effectivement que la fête traditionnelle, c'est une fête qui fédère. C'est-à-dire qu'on laisse de côté nos histoires de cuisine interne, mais on se retrouve effectivement pour la symbiose au niveau effectivement de notre culture. Parce que vous savez, l'homme peut tout perdre, mais l'homme ne peut pas perdre également sa culture. Donc je crois que le fait de se rassembler, depuis un certain temps, nous avons vu sur toute l'étendue du territoire, les samedis surtout, c'est les fêtes effectivement traditionnelles. Et au cours de ces fêtes, nous voyons toujours qu'il y a un représentant permanent du président de la République au cours de cette fête. Mais ce que j'aimerais peut-être souhaiter, c'est que si le calendrier du chef de l'État le permet souvent, à part toutes les fêtes, mais quand il y a quand même un temps, un week-end, qu'il puisse également aller assister pour valoriser effectivement la culture effectivement des populations. Parce qu'il faut reconnaître que c'est vrai que souvent il est présent aux fêtes des Ebala, mais aux autres fêtes, il n'a pas souvent le temps. Il délègue souvent le pouvoir à certains ministres d'y aller. Mais ce serait une très bonne chose que s'il a le temps de souvent aller assister effectivement les populations là au cours de leur fête. Parce que c'est le canal le plus idéal où nos populations souvent passent des messages. Pas seulement à la lecture peut-être des discours, mais vous savez, l'Africain sait faire passer des messages par des chants également. Donc au cours de ces rassemblements-là, les populations veulent et ont toujours l'occasion de pouvoir passer ce genre de messages.
Arigno, bonjour.
Bonjour à toi, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à tous les Togolais.
J'espère que vous avez bien passé le week-end.
Absolument, oui.
C'est vrai, nous parlons de la culture. Et c'est vrai que Jacques a émis le vœu de voir même d'ailleurs le chef de l'État dans ses rencontres culturelles. Et c'est vrai, comme cela se passe même à Accra, lors des Ebala, d'aucuns parlaient même entre-temps aussi d'une discrimination culturelle quand on ne voit pas le chef de l'État dans d'autres rencontres culturelles à part ce qui se passe à Accra.
Non, moi, je crois qu'il faut comprendre rapidement le chef de l'État. Un chef de l'État, l'agenda est très chargé. Et en allant à Accra, je crois que c'est d'abord lui. Vous voyez que la PM était à Vau, c'est elle. Parce que Vau, la tradition de Vau, la concerne directement. Elle est là également, mais elle ne peut pas aussi être présente partout. Vous savez qu'il y a plusieurs fêtes, il vient de le dire à l'entame. Même, il faut que la personne se duplique. Si elle doit vraiment participer, ou le père doit participer à toutes les fêtes, un week-end, il doit être à la fois ici, ici et là, puisque les heures se coïncident, c'est le même week-end, et parfois, il y a 5 à 6 fêtes dans le même samedi. Donc, acceptons que si le président se retrouve à Accra, il le fait d'abord en tant que cadien, il est hier en tant que citoyen, en tant que ressortissant du milieu, et la PM qui était à Vau y était également en tant que native de Vau, et donc très concernée directement par cela. C'est pour cela qu'elle a été là. Sinon, d'aucuns diront que le gouvernement devait être présent partout. Et il se fait que dans certaines préfectures, il y a des fils qui sont au gouvernement et qui, heureusement, y vont en tant que natifs et qui représentent directement le gouvernement. Mais je voulais dire, par rapport à cette fête-là, que Feu et Adema avaient déjà vu loin. Et quand ils nous appelaient au retour à la tradition, Vous voyez, Djakouti a dit tout à l'heure que l'on peut perdre tout, mais sauf sa tradition. Mais la tradition, c'est notre identité. C'est en cela qu'on se reconnaît d'être Wati, qu'on se reconnaît d'être Tem, qu'on se reconnaît d'être Kotokoli, qu'on se reconnaît d'être... Et c'est ce qui a de spécifique par rapport à nos coutumes-là que nous devons conserver jalousement et pouvoir les transmettre à nos enfants. Et c'est ce qui se vit tous les week-ends. Il y a des enfants qui, ma foi, n'ont jamais connu la réalité de leur tradition parce qu'ils ont vécu soit en Europe, soit à Lomé, où ils n'ont jamais eu la chance de savoir ce qui est l'histoire, l'originalité même, l'identité, l'essence même de leur culture, ils ne connaissent pas. Il faut qu'il y ait des fêtes comme ça pour que, pendant les vacances, les parents qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, qui sont dans la diaspora africaine un peu partout, qu'ils rentrent avec ces enfants-là, qu'ils puissent découvrir ce qui se fait chez eux. C'est à saluer, c'est à encourager. La dernière fois, j'ai vu la dimanche circuler, la PM connaît sa tradition. Elle dansait et c'était intéressant. Et c'est un moment aussi où les gens sont en communion, en symbiose avec toutes les couches de leur milieu, où les gens se sentent vraiment très unis. C'est comme le football qui nous unit au lieu de nous diviser. Donc les traditions, elles nous rassemblent et c'est très bon. Le gouvernement a bien vu d'encourager. Il faut le faire. Parce qu'avec les générations que nous traversons aujourd'hui, les WhatsApp, tout, si on ne revient pas vraiment à notre tradition, d'ici 20 ans, on ne saura même pas d'où on est, on saura sur quelle planète nous sommes.
Didier, est-ce que vous avez vraiment l'impression que la cohésion sociale tant souhaitée par ces fêtes traditionnelles est de mise quand il y a ces rencontres ou bien ces juifs à l'heure de folklore?
Moi, je pense fondamentalement qu'il faut que nous redéfinissions quels sont plutôt nos objectifs pour nos fêtes traditionnelles. Et si on redéfinit les objectifs véritablement, on saura par quel bout prendre l'organisation de ces fêtes traditionnelles-là et on saura comment est-ce qu'on on les organise et comment on les déroule pour ne pas que certains se sentent mis à l'écart et qui est des débats à n'a point fini sur la présence, la participation ou non du chef de l'État. Donc moi je pense que c'est une question d'objectif. Qu'est-ce que nous voulons véritablement? Quel est l'objectif que nous voulons véritablement atteindre en organisant ces fêtes traditionnelles? S'il faut organiser une fête traditionnelle et envoyer, je sais pas, Kodjo parce qu'il est de la préfecture de Yoto, moi je pense que ce n'est pas véritablement. Si c'est ça, c'est fourvoyé, c'est comme si on a raté le coche, quoi. Après, nous avons tous salué ici l'organisation des Evala avec la présence du chef de l'État qui a donné de l'animation à la préfecture, sinon à la région de Dakar durant un temps, sinon si vous voulez une dizaine de jours, et on avait apprécié. Je pense que si les objectifs étaient bien définis et que tout était bien planifié pour permettre à ce que, pas tous les ans, hein, mais pas tous les ans, autant pour moi, mais que une fois, le chef de l'État, par exemple, puisse se rendre à Dinoukouzan dans le Vaud, je pense que ça rehaussera le niveau et l'image même de cette célébration-là. Mais quitte à ne jamais y aller et à envoyer soit un ministre, soit la première ministre, moi je pense fondamentalement que c'est un peu comme la cohésion dont nous parlons. Enfin, ça va être à géométrie variable. La cohésion, ce sera peut-être que je suis Wati, donc la cohésion, ce sera avec les Wati. C'est-à-dire que je suis Moba, la cohésion, ça va être avec les Moba. Et quand on est Kabia, il faut avoir une cohésion avec les Kabia. Moi, je pense que la cohésion que nous voulons pour le Togo, ça va être, on va dire, un mélange interculturel. Comme le Togo est un et indivisible, comme le dit la Constitution, il faut que nous ayons... un mélange interculturel dans le pays, que ce soit Evala, que tout le monde se sente finalement concerné, que ce soit à Dinoukouzan, que tout le monde se sente concerné, que à Isa ou tous les autres, que tout Tingbampave, Dipontre, tout ce que vous voulez, que tout le monde se sente concerné d'abord en tant que Togolais avant de se voir issu du milieu. Et donc je pense que il nous faut, et je l'ai dit la dernière fois, on parlait des fêtes traditionnelles ici, moi je pense que il faut d'abord que nous redéfinissions les objectifs et que nous nous efforçons de les dépolitiser aussi. Parce que à plusieurs niveaux, on voit qu'il y a beaucoup plus de considérations politiques, des présidents préfectoraux de tels partis politiques qui prennent le dessus sur tous les autres et qui organisent. Et donc, c'est les autres. Ils viennent juste le jour de l'apothéose pour, bon, voilà, pour ne pas que, vous voyez, n'est-ce pas, pour faire de la figuration. Et après, au fond, l'organisation, vous ne sentez pas tout le monde être impliqué et vous ne voyez pas tous les cadres être impliqués. Et après, bon, même dans le déroulé de la cérémonie, la façon dont on met un certain nombre de personnes en exergue au détriment des autres, après, ça n'a rien véritablement de fait traditionnel d'un milieu où tous les fils et filles devraient normalement être se sentir concernés et participer. Donc, après, souvent, c'est une question de mise en exergue d'un certain nombre de personnalités. Et après, bon, voilà, c'est une affaire essentiellement politique, je l'ai dit, mais on en avait également parlé. Ils ont perdu les aspects culturels. Quand on parle de fête traditionnelle, c'est qu'il y a forcément un côté culturel. Je veux parler de culte. Et je pense qu'il y a, on a fait ce débat ici la dernière fois, on ne va pas revenir dessus, mais il y a ce côté-là également qu'il faut continuer à promouvoir pour que véritablement l'essence même de ces fêtes-là ne soit pas perdue au détriment des folklores que nous faisons et des considérations politiques qui prennent souvent le dessus.
Voilà, Jacques Didier l'évoquait, hein, aujourd'hui, le constat est fait, hein, et que déjà la politique s'invite plus alors dans ces débats culturels, ou du moins dans ces cérémonies, manifestations culturelles, mais et cela dénature la fête traditionnelle en elle-même.
Je suis d'accord avec vous. Au fait, c'est l'excès de zèle. C'est ça qui crée ce problème. C'est-à-dire que les gens sont tellement zélés, et les gens veulent un peu politiser la chose. Et c'est ce que nous constatons. Dans un passé récent, autant pour moi, je me rappelle, il y a un couple qui avait mis au monde un enfant un 13 janvier. Et finalement, ça avait créé des problèmes. Le monsieur était d'un autre parti, la dame également était d'un autre parti, malheureusement ou bien heureusement, Dieu voulant. L'enfant est né un 13 janvier. Et bon, vous connaissez ce que c'est que la date du 13 janvier dans un passé récent. Vous savez, l'enfant n'a pas choisi le jour de sa naissance, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Mais finalement, ça avait créé des problèmes. Parce que le monsieur dit pourquoi la femme a mis au monde l'enfant le 13 janvier, le jour que l'autre a pris le pouvoir. Vous voyez, et ça a créé des problèmes au sein de la famille, jusqu'à ce que, en ce temps même, le monsieur avait soupçonné même la femme que non, au fait, c'est pas sa grossesse. C'est-à-dire que la politique rentre un peu partout. On se pose des questions. Bon, finalement, voilà une naissance aussi, on veut politiser également une naissance. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que quelque part, ce pays, on met un peu de la politique un peu partout. Mais il faudrait que nous puissions dépasser cela. Vous savez, quand on parle de la politique, au fait, la politique ne devait pas être quelque chose où l'autre est contre l'autre, c'est-à-dire qu'on prend les machettes de gauche à droite, d'autres peignent des gourdins à gauche. Au fait, ça devait être une fierté, parce que je connais une famille dans ce pays où dans cette famille, il y a une diversité de personnes. C'est-à-dire qu'ils sont la plupart, les partis politiques qui existent dans ce pays, la famille là, presque toute la famille est dans ces partis politiques.
La famille est en quelque sorte de Togo en miniature.
Ah oui, mais oui, il n'y a aucun problème. Mais ce que nous constatons aujourd'hui dans notre pays, tout est politisé. Il faudrait que nous puissions dépasser effectivement ce débat, parce qu'il est vrai, lorsque nous allons, vous suivez un peu ce qui se passe au sein effectivement de ces fêtes traditionnelles, il y a souvent quand même l'excès, comme je le disais tout à l'heure, ça il faut pas, on peut pas se tromper là-dessus. On voit l'excès, mais certains ne demandent pas. Mais certains, c'est les gens qui le font. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'entre-temps, un ministre a sorti un arrêté pour dire qu'il faut essayer de changer quand même la couleur des écoles, éviter de peindre les écoles là, sur la bannière, effectivement, d'un parti. Mais le ministre l'a vu juste, parce que cela, ça divise. Donc, il faudrait aujourd'hui que nous puissions transcender, effectivement, nos divisions, pour que nos divisions puissent devenir peut-être une richesse pour nous. Dans ce sens-là, vous allez voir que nous allons avancer. Mais lorsque nous laissons effectivement cette division-là nous engloutir, finalement, nous n'aurons pas effectivement l'occasion de pouvoir mieux réfléchir. Alors que les fêtes traditionnelles devaient être une occasion où les fils et les filles devaient se retrouver pour voir comment développer effectivement leur pays. Mais ce que nous constatons, comme Didier le disait tout à l'heure, il y a certains qui pensent que, bon, ils ont le droit de vie et de mort sur certains. C'est-à-dire que les autres là viennent comme des paravents. C'est-à-dire que c'est eux. Mais cela ne devait pas être comme ça, au fait.
Arimiaou, au-delà du folklore, il faut cette transmission des valeurs culturelles à la nouvelle génération.
Oui, nous sommes dans un fourre-tout aujourd'hui. Tout le monde sait que quand vous allez dans les différents milieux, Didier a parlé de l'aspect culte, l'aspect culte. Parce que, à l'origine, chacun de nous avait une identité, je l'ai dit tantôt, une essence qui n'était pas forcément ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que vous allez aller chez moi, vous allez voir des gens qui vont vous dire que le côté culte, identitaire, ne les regarde plus. À qui ils ne voudraient pas qu'on passe par cet acte et qu'ils soient présents. Et ça crée des problèmes partout. Vous irez aujourd'hui à Vaud, ce qui s'est passé le week-end, vous allez voir des gens qui vont vous dire « Miami ni Christophe ». Les libations, tout ce qui va se faire et qui est l'identité réelle, vous allez voir que les gens ne vont pas vouloir. Et donc, les gens font à peu près finalement, dans certains milieux, on accommode tout à la nouvelle dogme, c'est-à-dire la nouvelle religion. Vous allez voir que les gens vont aller dire qu'il faut aller faire la messe. Je n'en sais pas trop. Vous allez voir que les gens vont dire qu'au lieu d'aller au couvent, au lieu d'aller faire, ça dépend des milieux. Donc, je crois que cet aspect également vient créer tout le folklore que nous vivons. Parce qu'on laisse la vraie chose qu'il devrait avoir et pour aller donner satisfaction aux attentes des uns et des autres qui sont pourtant des fils du milieu. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est dans un fourre-tout où tout le monde a une vision, quand bien même on est censé être d'une localité ou d'une essence. Et donc, ça fait que vous parlez de politique. Oui, la politique, elle est là partout parce que c'est un moment de se retrouver. Et souvent, dans toutes les préfectures aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les cadres. Quand on dit que c'est les cadres, vous avez invité tout également. Vous avez les deux tendances ou les multiples tendances politiques. Vous avez les gens qui sont dans les ONG. Vous avez les journalistes. Vous avez tout le monde avec une mentalité. Donc, ça veut dire que les gens se retrouvent dans un village, dans une préfecture, avec plus de 2 000 ou 5 millions d'idées différentes pour célébrer quelque chose dont ils se réclament tous. Voilà un peu ce que nous voyons. Et c'est ça qui crée le folklore. Et c'est ça qui nous donne l'impression qu'on est en train de transcender la politique sur le terrain de notre tradition.
Didier, est-ce que, tel que le dit Harry Mirou, tout de suite, est-ce que nos religions importées aussi arrivent à impacter alors cette culture ou cette tradition que nous menons chez nous? Et cela, par après, dénature même d'ailleurs aussi cette tradition.
Non, là, au début de mes propos, j'avais déjà dit, il faut que nous redéfinissions quels sont les objectifs de ces fêtes. Donc, tout dépend. Si on redéfinit les objectifs de ces fêtes et l'idée, c'est de les remettre dans leur sens premier et véritablement permettre d'asseoir l'identité de nos localités ou de nos préfectures, par exemple. Si je prends, par exemple, Bassar, il n'y a pas forcément que le culte qui compte, mais au-delà du culte, il y a par exemple la danse et tout le reste qui est même...
La danse dans le feu.
Oui.
La danse dans le feu, bien évidemment, c'est ça la particularité.
Voilà. Les initiés font la danse dans le feu. Quand je prends Adosa Gadao chez mon ami,
oui.
Les initiés, ils font la danse avec les couteaux. Vous voyez? Mais ailleurs, les gens... Ils font également des choses sans forcément être initiés. Tout dépend de l'origine de la préfecture. Et donc, là où il n'y a pas forcément un aspect culturel, un aspect d'initiation avant de faire quelque chose, je pense qu'on peut continuer à rassembler beaucoup de personnes autour pour que véritablement, puisqu'il n'y a pas d'initiation, puisqu'il n'y a rien qui entache la croyance des gens, des autres, des uns des autres, il faut véritablement qu'on redéfinisse les objectifs de cette fête-là, quitte à rassembler beaucoup de personnes, comme il a dit, les cadres, alors là, véritablement, tous les cadres, pas seulement certains cadres, mais à des endroits où il faut des initiations et tout ça, ça c'est, même dans l'ancien temps, c'est pas, on n'obligeait pas tout le monde à passer les initiations, c'est ceux qui véritablement sont destinés, on estime que certains sont destinés à faire des initiations et tout ça, et ils sont bien partant pour cela. Et on les laisse, on les initie, ils font les aspects culturels après, les aspects festifs, tout le monde participe. Donc je pense, et je le répète encore, quels sont les objectifs que nous visons en organisant nos fêtes traditionnelles? Si c'est pour le folklore, si c'est pour mettre telle tendance politique en avant, si c'est pour... parce que, bon, quand on va parler des cadres, au Togo aujourd'hui, imaginez ce que peut être les cadres dans les préfectures. Et vous suivez bien mon regard. Et donc, c'est tout le problème. Après, nous ne savons pas ce que nous faisons. Et des gens s'en servent pour faire du folklore, pour faire de la propagande à la limite, et surtout à l'approche des élections comme ça. Vous voyez, c'est d'autres choses qui se mêlent. Et après, au fond même, ce qui est traditionnel, ce qui est identitaire, on perd réellement cela, et après, on aura célébré ces fêtes-là pour ne rien célébrer au final. Donc, je pense fondamentalement que dans chacune des préfectures, on puisse avoir des assises pour voir comment est-ce que nous replaçons nos fêtes traditionnelles dans leur sens premier, et pour atteindre les objectifs de cohésion du milieu, cohésion nationale, et qu'on travaille en miniature pour, comme il a dit, le Togo en miniature dans une maison, ça doit être le Togo en miniature dans toutes les préfectures et le Togo en miniature dans le Togo. Donc naturellement, il faut que nous travaillions dans ce sens. Si ce n'est pas ça, je pense fondamentalement qu'on va les célébrer année après année, mais au final, on n'aura rien fait.
Quoi. Nous allons continuer alors ce débat culturel après, mais nous restons dans cette émission Club de la Presse pour parler sécurité routière. Je ne sais pas, Jacques, je ne sais pas la voix que vous avez prise ce matin avant de venir à la radio, mais ce qui est sûr, je l'ai pris par Bagida déjà au carrefour ou au rond-point Simao. J'ai vu quand même que des motos ont été arrêtées. Également au rond-point du port, et aussi quand on vient au niveau alors de Décon, au rond-point Décon ici, il y a également des motos qui sont arrêtées NDA, dans le feu rouge alors de NDA, il y a des motos qui sont arrêtées, alors pour cause je pense que tout simplement que vous savez qu'il y a cette campagne sur le port de casque obligatoire qui est décrété depuis un temps, et aujourd'hui il semble même d'ailleurs qu'il y a la phase sanction qui a commencé. Jacques, déjà on pense tout simplement que c'est pour préserver des vies. Hein.
Bien sûr, vous savez, c'est le lieu de rendre hommage quand même au gouvernement et à travers le ministre de la Sécurité et également le directeur de la police. Parce que vous savez, c'est un travail utile, un travail noble qu'ils sont en train de faire pour la population. Vous savez, Pascal, je ne sais pas si vous avez une fois fait un tour à la traumatologie. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Et quand on dit à nos compatriotes de porter des casques, au fait, c'est sympa qu'on ne les force pas. Mais à un moment donné, il faut forcer les gens de le faire. Parce que c'est pour leur bien. C'est pour le bien, effectivement, des populations que le gouvernement a pris cette décision. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, j'avais dit ça dans ce studio. Vous savez, le vrai problème aujourd'hui, c'est le problème des casques. J'avais dit ici dans ce studio qu'il faudrait que le ministre, par exemple, du commerce, et son collègue du transport et de la sécurité puissent rencontrer effectivement tous ceux qui vendent les casques et voir comment fixer un prix que les Togolais puissent effectivement avoir accès à ces casques-là. Mais je crois que peut-être cela n'a pas été fait, mais nous voyons que les vendeurs de casques, chacun donne son prix, 12 000, 9 000, 11 000, et c'est ça qui crée aujourd'hui des problèmes au niveau de nos populations. Mais il faut reconnaître également que nos compatriotes doivent comprendre que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas du tout de prix. Quel qu'en soit effectivement ce que vous pourrez débourser pour acheter ces casques-là, il faut le faire. Et l'autre aspect, c'est au niveau effectivement de certains qu'on prend effectivement sur les motos. Les Z-Man ont leur casque. Mais quand ils prennent par exemple nos compatriotes sur les compatriotes refusent de prendre le casque du Z-Man. Parce qu'ils se disent non, que plusieurs utilisent ce casque-là. Donc eux, ils ne vont pas le faire. Et c'est en ce moment, lorsque les Z-Man arrivent au feu rouge, ils sont obligés d'être arrêtés par la faute effectivement de celui qu'on a remarqué sur la moto. Mais si c'est comme ça, si vous savez que vous ne voulez pas utiliser le casque du Z-Man, bon, il faut avoir votre propre casque. Là, ça va résoudre le problème. Mais l'autre aspect aussi, je voudrais sincèrement demander au directeur de la police de continuer toujours par la pédagogie. Nous avons vu les échauffeurs qui ont eu lieu la semaine passée à Thévier. On nous a parlé des échauffeurs également à Cara, je crois aujourd'hui également à Sokoré. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse toujours continuer, que nos compatriotes comprennent que, au fait, le gouvernement n'est pas là pour le mal de la population, mais c'est pour le bien de nos populations. Et le gouvernement ne peut jamais être un gendarme derrière chaque Togolais. Si aujourd'hui, tu fais un accident et que tu as un casque, cela vraiment peut amoindrir effectivement le choc. Mais ce que nous constatons, lorsque vous n'avez pas le casque, ça crée vraiment des désagréments au niveau effectivement du crâne. Donc, plaise à Dieu, plaise également à nos compatriotes. Moi, je le répète une fois encore, il faut que nous soyons en bonne santé. Sont en bonne santé en portant effectivement nos casques.
Disais, le journal Togo Matin titre à sa une, ou s'interroge même d'ailleurs à sa une, alors que ce matin, casque obligatoire, le citoyen lambda peut-il relever ce défi sécuritaire? Et si vous pouvez répondre à cette question, est-ce que vraiment le citoyen lambda peut est-il répondre ou relever ce défi sécuritaire?
Non, en fait... La campagne du port obligatoire de casque pour tous, donc, dans ce sens-là, je pense que ça posait en fait deux défis. Mm. Le premier, c'est que les immigrants, tous les immigrants, puissent avoir un second casque pour donner aux clients qui se présentent à eux pour qu'ils les portent avant d'être remorqués. Mm. Et on se demande si le même immigrant circule à Lomé à longueur de la journée avec le même casque et que tout le monde porte le même casque jusqu'à la fin de la journée, s'il y a des virus, s'il y a des maladies, donc le nombre des autres qui auraient porté auront chopé donc ces maladies. Donc imagine le même casque qui circule sur la tête de tous jusqu'à une semaine, jusqu'à un mois, jusqu'à je ne sais pas X temps. Vous imaginez ce que ça peut être. Donc il y a également ce défi-là. Mais alors là, si le citoyen ne peut pas aller prendre ou ne veut pas aller prendre le casque du zémidiant au risque de choper peut-être une maladie, donc il revient à lui-même de s'acheter un casque. Même s'il n'a pas de moto, il faut qu'il s'achète un casque. Et je pense que c'est véritablement là que se pose le problème actuellement. Et tout le monde dit est-ce que tous les citoyens ont les moyens aujourd'hui de s'acheter un casque? C'est très compliqué parce que nous sommes dans une période de vie chère qui ne dit pas son nom. Tout le monde peut ressentir ce phénomène de vie chère à son niveau selon les degrés. Mais est-il que nous sommes dans une période de vie chère? Mais il y a également cette obligation de se protéger. La vie, elle est unique et elle ne s'achète pas. Je ne pense pas que la vie s'achèterait à 10 000 ou à 7 000 ou à 8 000. Donc, pour relever ce défi, c'est aux citoyens de se poser ces questions-là, de voir qu'est-ce que je fais pour protéger ma vie? Est-ce que je choisis d'aller prendre le casque chez les émigrants avec les conséquences possibles que cela pourrait avoir, ou je me trouve les moyens de m'acheter un casque personnel pour que avec lequel je circule à Lomé quand j'ai envie ou j'ai le besoin de prendre une moto. Et il faut véritablement que les autorités également travaillent dans ce sens, aident les citoyens dans ce sens. Pourquoi pas trouver un mécanisme, par exemple, de subvention des casques pour que à un prix forfaitaire ou à un taux forfaitaire, les citoyens puissent avoir les casques. Mais je lance également cet appel aux bonnes volontés pour permettre aux citoyens de relever ce défi-là. Les bonnes volontés, les ONG, on le sait, peuvent également aider aider les citoyens à acquérir. Ils me regardent bien ici, je pense qu'il va aider quelques citoyens à s'octroyer des casques. La rentrée scolaire également s'approche et on sait combien d'élèves ou le nombre important d'élèves également qui prennent les immigrants soit pour aller à l'école, soit pour rentrer à la maison. Donc comment est-ce qu'on va organiser tout ça? Est-ce que les élèves, on doit leur acheter, les parents doivent leur acheter des casques, ou il va y avoir des campagnes de subvention de ces casques-là pour des distributions foraines, pour permettre aux citoyens? Je pense que c'est d'abord la responsabilité du citoyen, mais la responsabilité également de l'État de protéger le citoyen. Donc dans tout ça, je pense qu'il faut faire de la pédagogie, que la pédagogie continue, la sensibilisation continue. Et les immigrants, j'en ai vu plein en venant, qui ont attaché un second casque déjà à leur moto. Je pense que ça marche bien. J'ai vu plusieurs passagers à bord à dos de moto qui ont également porté le casque. Je pense que cette pédagogie et cette alerte de la police nationale a véritablement commencé à impacter les uns les autres. Maintenant, il faut voir est-ce que tous les citoyens pourraient avoir les moyens de s'acheter un casque. Sur le principe, on est tous d'accord qu'il faut porter le casque. Maintenant, il faut, je dis, travailler à ce que le citoyen puisse avoir un casque chez lui. Je pense que quand on l'a, c'est facile de le prendre, même si les immédiats ne vous le tendent pas, vous le tendez vous-même. J'ai vu également en venant que les immédiats avaient un second casque attaché à sa moto, mais là, dans ce cas-là, c'était une cliente. La cliente a porté elle-même un casque, donc ça veut dire que l'autre casque, elle n'a pas porté. C'est ce que je disais. Donc ça va être le choix du citoyen. Mais si les gens ont les moyens d'avoir le casque, ils pourront justement disposer comme ils veulent en arrivant chez les émisants. L'essentiel, c'est de protéger les vies, éviter beaucoup de morts et de blessés dans les accidents. Je pense qu'on va y arriver.
Voilà, Arimiaou, c'est vrai que dès le début même d'ailleurs de cette campagne, il y a les vendeurs de casques qui ont augmenté leur prix. Et cela fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à s'acheter alors un casque. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la nécessité pour le gouvernement de subventionner ces casques?
Je crois qu'on ne va pas faire des amalgames autour de cette question. Et pour dire que je connais bien le Togolais, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on fait la campagne pour attirer l'attention des citoyens togolais à porter le casque. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Si vous avez souvenir, c'est que ça date de plusieurs années en arrière. Et tout le monde a conscience que celui qui ne porte pas un casque et qui, malheureusement, est en face d'un accident, est exposé plus que celui qui s'est protégé. Le casque, c'est comme les contre-balles que les militaires portent. Et le casque joue un grand rôle. Et je me dis que nous avons du travail à faire, nos journalistes, et attirer l'attention et continuer par faire la pédagogie aux côtés des gouvernants. Parce que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est son rôle régalien d'amener les citoyens à comprendre la nécessité de se protéger. Parce que quand les gens sont en bonne santé, quand les gens font des accidents et que Dieu les préserve, les casques les préservent, ils sont là, ça contribue à développer le pays. Et ça, c'est le travail que le gouvernement est en train de faire, surtout la police, la gendarmerie. Je voudrais féliciter, comme Djakouti, le ministre Yark, et le directeur de la gendarmerie aussi bien que celui de la police pour le grand travail qu'ils abattent au niveau de nos feux rouges, à attirer l'attention des citoyens à se protéger. Mais au même moment, je crois que le message ne passe pas encore, parce que beaucoup de gens tiennent les casques et quand ils sont en train de voir la police ou la gendarmerie à côté, allez, on met le casque pour pouvoir juste passer là-bas. Là, je m'adresse aux femmes. Il y a des femmes qui font des coiffures sur la tête. Et à cause de cette coiffure, on ne peut même plus porter un casque. On ne peut pas. Et donc, si tel est que les gens arrivent à comprendre que ce n'est pas en portant le casque que le gouvernement aurait accompli la meilleure de ses missions, que ce n'est pas en portant le casque que, bon, Paul Nyatsingbe va dire que, bon, voilà, non, c'est pour nous avant tout. Donc, si les gens comprennent les choses comme ça, on ne parlera même plus du prix. Parce que le scanner, pour faire un scanner à la tête, c'est plus que le prix d'un casque. Et donc, quand on va frôler la mort, quand on va être au coma, les frais à dépenser dépassent les frais d'un casque. Donc, que chacun fasse l'effort de se procurer le casque. Je me demande combien nous sommes au Togo. Si Didier a pensé aux bonnes volontés, combien de casques ces bonnes volontés vont avoir et distribuer à tous les Togolais. Il faut qu'on soit concret. C'est beaucoup plus à la capitale et dans certaines villes que cette nécessité de prendre les immédiats se fait sentir. Nous avons nos villages, nous avons nos fermes, les gens ont des motos. La circulation n'est même pas aussi dense que dans nos grandes villes, surtout la capitale. Donc c'est Lomé qui, en premier, doit prendre conscience et servir d'exemple aux autres grandes villes du pays. Vous allez à Sokoré, la circulation n'est pas aussi concentrée comme ce que nous vivons à Lomé. Vous allez à Kara, c'est pareil. Mais c'est vrai que les gens prennent les motos là-bas. Après Lomé, c'est les grandes villes. Mais les villages, ce n'est pas obligatoire. Je me demande si aujourd'hui, à Couvé, chez mes oncles par là, est-ce qu'aujourd'hui les policiers sont au carrefour pour contrôler ceux qui ont porté les casques ou non?
Il y a des policiers à
Mais voilà. Donc, ça veut dire que c'est relax par endroit, mais beaucoup plus compliqué à Lomé. Donc, prions, travaillons à ce que les gens comprennent que c'est pour eux, avant tout. et qu'on ne pense pas à croire que bon, le gouvernement est en train de vouloir forcer les gens. Non, on ne force pas les gens, mais on les protège.
Jacques, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, allez, est-ce qu'il ne faut pas aller vers un travail de conscientisation? Parce que après tout, c'est qu'il y a des gens qui disent, mais écoutez, alors, pour cette question alors de casque, ça va passer tout de suite, c'est plutôt alors 2-3 semaines ou 1 mois, et allez, le gouvernement va laisser cela. Est-ce qu'il ne faut pas un travail de conscience, de prise de conscience, j'allais dire, au niveau même d'ailleurs du citoyen?
Non, vous savez, moi j'ai assisté à un phénomène ce matin. Il y a une dame qui avait effectivement son casque. Elle a dit qu'elle tenait le casque. Arrivée au niveau effectivement des policiers, c'était au niveau du collège protestant. Vous savez ce qu'elle a fait? Le temps qu'elle sorte effectivement le casque pour mettre sur sa tête, parce qu'elle a vu les policiers, le casque est tombé. Vous voyez? Le casque est tombé. Le casque est dirigé vers les policiers effectivement. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle va faire? Faut-il descendre, aller prendre le casque? Faut-il laisser le casque partir? Finalement, elle est partie, elle a laissé le casque. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que quelque part, au fait, comme ce qu'Arim Niaou disait tout à l'heure, il faudrait que les gens soient conscients. Il a dit que ce n'est pas parce qu'on voit le policier qu'il faut mettre le casque. Mettons le casque dès que nous sortons de notre maison. C'est pour notre sécurité. Et l'autre aspect, vous voyez les gens sortir aujourd'hui les calebasses pour mettre sur les têtes. Soit disant que c'est les casques. C'est les calebasses que les gens mettent. Vous voyez? Donc il faudrait que les gens soient conscients. Une calebasse ne peut jamais te protéger. C'est-à-dire quand la police réclame, quand le ministre de la Sécurité, celui de la police et de la gendarmerie réclame que vous mettez des casques, ne mettez pas des calebasses. Une calebasse, quand tu tombes là, mais la calebasse se brise. Vous voyez? Et tu auras des problèmes au niveau de ta tête. Une fois encore, j'ai dit, c'est où il faut que les gens soient conscients. Quand on dit de porter les casques, c'est pour notre sécurité. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Rwanda. Mais ça, c'est automatique. Elle a dit que vous ne pouvez pas dire non, on n'a pas les moyens, on ne va pas mettre. Mais mon frère, quand on te prend là, toi-même, tu sais. Vous voyez, donc je crois que quelque part, il faut que nous soyons conscients. Là, le gouvernement est effectivement dans une ligne droite. Le gouvernement est en train d'accomplir effectivement un travail pour notre santé, pour notre sécurité. Un gouvernement responsable ne peut jamais laisser une population tomber comme ça, comme des mouches. Et tous les jours, quand vous allez au niveau, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez des blessés, mais ce n'est pas normal. Le gouvernement ne peut pas laisser ça passer. Donc, je crois que soyons conscients. Si nous sommes conscients que, avant de détenir le volant, il faut avoir un permis, il faudrait que nous soyons conscients également que lorsque nous prenons une moto, il faut qu'on ait également un casque. C'est important.
Didier, c'est vrai que d'aucuns disent que, mais écoutez, pour que des gens prennent plus conscience, il faut corser plutôt les sanctions. Il faut même aller à des peines alors d'emprisonnement. Donc cela va amener plus alors des gens à être plus conscients. Est-ce que vous êtes du même avis?
Bon, et moi je pense qu'il faut continuer la pédagogie. C'est vrai que Tiano disait tout à l'heure que depuis ça fait très longtemps qu'on parle de la nécessité de porter le casque et tout le monde sent la nécessité de porter le casque. Il y a déjà quelques années, même voir un Zémidian porter un casque, c'était une curiosité à Lomé. C'était une vraie curiosité que tu vois un Zémidian qui porte un casque. Mais quand la pédagogie avait commencé avec un peu de sanctions et tout ça, je crois qu'aujourd'hui, systématiquement, tout le monde, que ce soit Zémidian ou n'importe qui, un citoyen lambda, tous ceux qui montent à dos de moto, systématiquement portent le casque. Et la résistance, c'est justement pour les passagers. Et on se disait comment est-ce que cela pourrait être possible, surtout que il y a beaucoup de Zémidians qui doivent remorquer beaucoup de clients. Comment est-ce qu'on peut gérer avec un seul casque? C'était la question qu'on se posait. Mais aujourd'hui, puisque la nécessité se fait sentir et que c'est devenu obligatoire, je pense qu'il faut continuer à faire dans la dissuasion, dans la sensibilisation et la dissuasion. Et vous allez vous rendre compte que dans quelques mois, ça ne va même pas atteindre des années, dans quelques mois, on va voir systématiquement tous ceux qui sont dans la circulation et qui sont à deux de moto vont porter de casque. Je pense que la police togolaise et les autorités sécuritaires, notamment le général Yark, est champion dans ça. Vous avez vu, je parlais de casque pour les conducteurs de moto. C'est ça, c'était la même chose pour la ceinture de sécurité pour les chauffeurs. Et c'était une curiosité à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est systématique. Je pense qu'on arrivera à cette étape également. Et il ne faut pas qu'on donne trop dans le comment je veux dire, pas qu'on rentre également dans du zèle pour dire on va emprisonner les gens. J'ai écouté le colonel Okpaoul dire que la mesure de sanction est graduelle, que quand on va prendre des gens, on va les garder, les punir pour la journée, par exemple, garder la moto pour toute la journée, et les passagers seront retenus pour plusieurs heures. Mais si tu as une activité urgente pour aller passer à cause du casque, on te retient là-bas 3 heures, 4 heures de temps, c'est une grande punition. Pour les hommes d'affaires ou pour un Zémidien qui doit normalement, qui fait du work and pay, et qui doit normalement travailler la journée pour aller payer celui qui lui a acheté la moto, et que la police retient la moto toute la journée, il n'a pas travaillé, il ne pourra pas aller s'expliquer que c'est parce qu'il n'a pas de casque ou n'a pas porté de casque ou il n'a pas de casque pour son client que la police l'a retenu toute la journée, il n'a pas travaillé. Il va avoir une dette là-bas à payer après. Donc ça va être déjà des punitions sans que la police durcisse le ton. Ça va être des punitions également déjà qui, que les citoyens même s'infligent en ne portant pas le casque dans la circulation.
Rémi, c'est vrai qu'au-delà du port obligatoire du casque, il faut plutôt insister aussi sur le respect du code de la route.
Oui, le respect du code de la route, surtout qu'on est en train de nous construire des routes maintenant dans la capitale et un peu partout. Mais je voulais prier les Togolais, où qu'ils soient, d'éviter de faire amalgame autour de cette question de casque et d'aider la police et la gendarmerie, de leur faire économie du temps qu'ils perdent au carrefour et de toute la peine qu'on leur fait endurer au moment où le pays traverse des moments difficiles. Vous savez que les gens nous guettent au niveau de l'extrême nord. Il y a le grand banditisme qui est là, c'est la même police et la gendarmerie. Il faut que nous leur fassions économie de tout ce qu'on leur fait endurer au niveau des carrefours parce que nous nous refusons de porter des casques. C'est pas sérieux. Il faut que tout le monde fasse l'effort de comprendre que nous sommes en train de fatiguer nos propres frères. Les jeunes que vous voyez là, c'est nos enfants, c'est nos petits frères. Et ils sont appelés à beaucoup plus sérieux ailleurs que ce que nous faisons. Ce que les gens font en refusant de porter les casques. Ce que les gens font en tenant les casques. Et que c'est quand ils aperçoivent les policiers, ils portent là. C'est de l'incivisme. Ça ne nous conduit à aucun développement. Ça nous retarde, ça nous rétrograde. Les petits, les policiers qui sont là, ils pouvaient nous sécuriser là où les gens qui troublent notre quiétude, les gens où les braqueurs, les voleurs, ils pouvaient être là-bas que d'être regardés tout depuis qu'ils ont commencé cette opération. Vous les voyez? Mais ce n'est pas, en réalité, ce n'est pas à ça que nous devons penser, croire que nos petits frères, nos enfants qu'on a recrutés, ce n'est pas ça que nous devons souhaiter qu'ils fassent, qu'ils soient là pour regarder parce que nous refusons d'aider l'État. Il faut que tous les citoyens aident l'État. Et chacun doit le faire à partir de sa maison. C'est la rentrée, Djakouti a dit ça. Bientôt les enfants vont commencer par aller à l'école. Qu'est-ce que ça coûterait à nous parents? C'est vrai, il n'y a pas l'argent, nous en sommes conscients. Mais quand tu refuses de donner casque, on te rappelle que bon voilà, ton enfant vient de briser sa tête. Tu vas courir, tu vas chercher les moyens pour aller le soigner. Et s'il y a la chance qu'il est encore en vie, oui. Mais s'il perd la vie, tu diras quoi? Donc, moi, je crois que nous devons être des citoyens qui savent aider l'État. Ce n'est pas la politique. Il n'y a rien à politiser à ce point. C'est nous-mêmes avant tout. Puisqu'on a accepté les motos pullulent d'un peu partout dans le pays. Personne n'a interdit aux gens de faire leur petite affaire avec les motos. Et donc, à partir de cet instant, nous-mêmes soyons conscients que nous devons accompagner l'État. C'est ce que moi je crois.
Nous devons être conscients. Oui, nous devons être conscients que nous devons accompagner l'État. Arimé, nous restons toujours avec vous pour parler du climat des affaires. Et le climat des affaires, et vous titrez à la une alors de votre journal La Nouvelle Opinion ce matin. Climat des affaires, rapport de la Banque mondiale, le Togo parmi les 54 économies. C'est ce que vous dites.
Oui, mais je crois que depuis plusieurs années, tout le monde est conscient, tout le monde vit, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires vivent, comment le Togo est en train de s'orienter pour faciliter les affaires à ces opérateurs qui viennent dans notre pays, pour faire en sorte que le pays soit attrayant. Vous avez vu ce que le port de Lomé est devenu aujourd'hui. Vous avez vu comment notre aéroport est. Vous avez vu comment le Togo se bat pour que tout se facilite, tout soit prenable par ceux qui auront envie de s'essayer dans le pays. Et donc, cela est en train de payer à petits coups. Et c'est ça qui fait que, à l'évaluation dernière de la Banque mondiale, le Togo compte parmi les 54 bonnes économies. Donc ça veut dire que en dépit de tout, en dépit de tout ce que nous vivons, en dépit de toutes les difficultés au plan mondial, parce que quoi qu'on dise, la conjoncture, elle est dans tous les pays aujourd'hui. Ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le Ghana, ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas un autre pays qui viendra dire que nous, nous nous sentons bien depuis la guerre d'Ukraine, ajoutée à la crise, à la Covid-19. Le monde entier est en train de traverser une conjoncture, mais le Togo en interne fait des efforts pour que tout se facilite, pour que les opérations puissent aller comme cela se devait. Et voilà que ça se paye. La Banque mondiale nous a classés parmi les 54. C'est à saluer. Et les Togolais dans leur ensemble devraient pouvoir comprendre que quelque chose de sérieux se fait. Il faut encourager cela.
Alors, Didier, classement 54 pays, enfin 54 économies, bien évidemment. Nous sommes parmi alors ces 54 pays. Mais est-ce que ça se ressent chez le citoyen lambda?
Je crois que fondamentalement, c'est le travail que le gouvernement doit faire maintenant. C'est vrai que les réformes sont menées, les réformes sur le climat des affaires, ça, c'est des réformes. Il y a une facilité aujourd'hui de création d'entreprises, il y a beaucoup de mécanismes, beaucoup de réformes pour permettre aujourd'hui à ce que lorsque les entreprises se créent, qu'il n'y ait pas de tracasserie pour leur fonctionnement. Et sur ce plan-là, oui, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, tous ceux qui se sont essayés à la création d'entreprises ou à l'implantation de des entreprises, d'usines et autres, reconnaissent que par rapport à il y a quelques années, le Togo a fait beaucoup d'efforts et la Banque mondiale salue. Vous savez, il y a quelques temps, on était même premier en matière de réforme, pays réformateur, troisième au plan mondial. Donc oui, c'est pas une surprise si on est parmi les 54 bonnes économies en matière de climat des affaires. Maintenant, les réalités restent les réalités. Eh bien, on a un bon climat des affaires, mais combien d'entreprises sont réellement togolaises qui se créent ici pour créer de la richesse pour les Togolais, recruter beaucoup de Togolais et permettre à ce que les ressources, enfin les bénéfices, les capitaux, tout ce qu'il y a, puissent alimenter l'économie en interne ici pour permettre aux Togolais de mieux vivre, d'aller mieux. Je pense que sur ce plan-là, il y a beaucoup encore de travail à faire pour encourager les jeunes entrepreneurs togolais, promouvoir les capitaines d'industrie ou d'entreprise, si vous voulez, au niveau du Togo, comme on peut en voir ailleurs. Pourquoi pas, le gouvernement peut décider, les autorités peuvent décider de fabriquer des Dangote, des Bon Congo ou d'autres encore en interne ici, et comme ça, l'économie togolaise se sentirait mieux. On est mieux classé, on est bien classé déjà, si le climat est préparé pour cela. Mais si le climat est préparé et qu'on n'a pas de citoyens, de Togolais, qui peuvent lancer des industries, lancer des entreprises, qui recrutent beaucoup de personnes, qui créent beaucoup de la richesse, je pense que ça va être le terrain dressé pour d'autres personnes, pour venir prospérer ici. Ça ne va pas forcément se ressentir par les Togolais et les Togolais vont continuer à accuser le gouvernement de ne rien faire pour eux. Mais là, je dis que l'effort est déjà à saluer, mais maintenant, il faut voir comment on fait pour que les citoyens, les gens qui ont la capacité de créer des entreprises, de créer beaucoup de choses ici pour lancer véritablement une économie vraiment togolaise, alors là, vraiment togolaise, de pouvoir le faire. Je pense que c'est à cela que je peux inviter le gouvernement.
Jacques, c'est vrai que les efforts sont faits et il y a même d'ailleurs des classements qui nous annoncent ou qui annoncent quand même que nous faisons de bon, assez de bon quand même sur le plan économique. Mais au-delà de tout, le Togolais lambda veut voir plus le gouvernement sur la création des emplois, sur comment arriver à améliorer les conditions de vie et de travail même d'ailleurs du Togolais et aussi alors le quotidien alors du citoyen lambda.
Il faut reconnaître que, vous savez, quand vous prenez un peu l'architecture du gouvernement aujourd'hui, on sent que la plupart de ceux qui entourent le chef de l'État, M. Forogna Singbe, c'est la plupart des têtes bien faites et des têtes bien pensantes. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez remarquer que la plupart, au niveau de chaque secteur, chaque ministre cherche à donner le meilleur de lui-même. Et nous voyons aujourd'hui sur le terrain ce que chaque ministre est en train de faire par rapport à la feuille de route qui lui a été confiée. Mais aujourd'hui, ce que nous ressentons, moi je l'ai toujours dit, aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement à la tête, M. Fornia Singbe, fasse tout pour créer les riches intermédiaires dans ce pays. Sans ces riches intermédiaires-là, je vous dis, le gouvernement peut tout faire. Le gouvernement peut financer, par exemple, des projets, mais nous allons toujours constater que les Togolais diront toujours que le panier de la ménagère coûte toujours cher. Le panier de la ménagère va coûter cher parce que, à côté de ceux qui sont tellement riches, à côté également, il y en a qui sont très, très, très pauvres. Vous voyez, au fait, c'est ça le problème. Voilà, le problème, c'est que la balance n'est pas équilibrée. Au moment où d'autres pèsent, d'autres sont tellement légers. Et c'est un peu difficile pour rentabiliser effectivement une économie. Donc je crois que ce à quoi le gouvernement doit s'atteler aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas financer tout le monde, mais quand même, il y a des gens qu'il faut quand même accompagner. Didier a parlé tout à l'heure des Bakungu, il a parlé des Ebomaf et des Dangote, autant pour moi. Voilà. C'est-à-dire que c'est un soutien. Il faudrait aujourd'hui que le gouvernement puisse voir comment venir en aide, soutenir effectivement ces économies-là que nous avons aujourd'hui au Togo. Pour dire, il y a des pépinières au Togo, hein, faut pas qu'on se trompe. Les pépinières sont là. Ces pépinières-là attendent seulement qu'on puisse les arroser. Je prends le cas de notre frère Seko, par exemple. Il y a des gens, aujourd'hui, si on les accompagne, Seko, d'ici 5 ans, 10 ans, n'aura rien à envier au Dangote ou bien au Bakungu. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il faudrait que l'État puisse soutenir. Vous voyez, la semaine passée, l'État a pris des actions au niveau de Askai. C'est-à-dire que Askai, c'est un compatriote qui a créé Askai. Je voudrais parler de M. Gervain Diondo. Vous voyez, c'est parce qu'il a créé cet Askai et l'État a pris des parts aujourd'hui. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que l'État puisse accompagner effectivement ces jeunes-là qui sont là. Ils sont nombreux, hein. Ils sont tapis dans l'ombre. Il y en a qui sont dans l'élevage, il y en a qui sont dans l'agriculture. Beaucoup de nos compatriotes sont là, qui ont besoin seulement que l'État puisse leur donner, ne serait que seulement un seul pouce, et puis ils vont avancer. Moi, je crois que c'est vrai, ces classements. C'est vrai également, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une élite togolaise aujourd'hui qui entoure le chef de l'État, qui font effectivement un bon travail. Il faudrait aujourd'hui que l'élite là qui est à côté du chef de l'État puisse aider effectivement également le chef de l'État à pouvoir voir dans quel secteur porteur aujourd'hui on peut effectivement financer pour que cela puisse aider. On nous a parlé des agropôles dans ce pays. C'est vrai, quand vous prenez aujourd'hui l'agriculture au Togo, on ne peut pas comparer l'agriculture du Togo d'hier à l'agriculture d'aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on puisse pérenniser cela. Pérenniser cela voudrait dire il faudrait qu'on puisse mettre à la disposition de ces paysans, de ces agriculteurs, les entrants aujourd'hui. Vous voyez, donc je crois que le Togo est tellement riche, ça il faut le reconnaître. Le Togo a vraiment un sol tellement riche, un sol vraiment béni. Il suffit seulement que l'État puisse accompagner effectivement et nous verrons.
Voilà. Et rapidement, j'aimerais qu'on place un mot par rapport à ce Rififi hein, qui se passe au sein du mouvement Jeunes sans frontières pour le développement du Togo de Marguerite et Sozina Nyakade. C'est vrai que déjà dans ce week-end, on a assisté quand même à l'installation, surtout alors d'un nouveau bureau hein, à Sotoboua, alors de ce mouvement, j'allais dire. Mais après tout, puisqu'on se souvient également alors du 16 juin 2023 où la présidente alors de l'association de ce mouvement a été exclue au finish dans un communiqué, le mouvement dit que Marguerite Nyakade reste alors la présidente alors du mouvement alors des Jeunes sans frontières pour le développement du Togo. Alors Jacques, il est important quand même qu'au sein de ce mouvement, puisque ce mouvement a commencé par faire parler de lui depuis un temps, il est important quand même qu'on fasse alors tout pour la sérénité hein, au sein de ce mouvement.
Au fait, c'est parce qu'il y a à manger dans ce gouvernement qu'il y a du rififi.
Dans ce mouvement.
Oui, s'il n'y avait pas à manger, il n'y aura pas effectivement des problèmes. De toi à moi, aujourd'hui, est-ce que je peux attaquer Arim Yao au niveau du CONAP? Il n'a rien à manger. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, si vous voyez aujourd'hui, il y a une guerre interne au sein de ces associations, de ces mouvements, c'est parce qu'il y a peut-être rien pouvoir en jeu. On croit qu'avec aujourd'hui ce qui se passe au niveau du mouvement dont vous venez de parler tout à l'heure, il est vrai qu'aujourd'hui, Mme Nyakade dit qu'elle est présidente. D'autres dissidents disent non, qu'elle n'est plus présidente. Mais moi, ce que je voulais dire, un seul mot pour placer au niveau de ce mouvement-là, je voudrais inviter effectivement le parti Unir. C'est-à-dire que c'est un parti implanté partout. Vous comprenez? Unir n'a pas besoin aujourd'hui de pouvoir salir son nom au niveau de ce mouvement. Du moment où la dame dit non, que c'est son association, c'est son mouvement, eh bien, laissez-la exercer. Laissez-la exercer. Vous n'avez pas besoin de pouvoir encore vouloir dire non, que c'est un mouvement qui appartient à Unir. Donc il faudrait que, bon, celle-là soit exclue. Non, il faut sortir de ces carcans-là. Moi, je crois que Unir n'a pas besoin de ça. Unir n'a pas besoin de cette association-là pour pouvoir mieux s'implanter sur toute l'étendue du territoire national. Unir n'a pas besoin de ça. Moi, je crois qu'il faudrait que ceux qui sont là, tapis dans l'ombre, qui sont en train de tirer les ficelles de gauche à droite par rapport à ce mouvement-là, à un moment donné, quand même, il faut cesser. Je sais que Unir a 3 vice-présidents ou bien 4 vice-présidents. Quand même, il faut régler ce problème-là.
D'accord.
Au lieu de laisser Unir, on trimballe le nom de Unir encore dans cette association.
Moi, je pense qu'il faut laisser à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Si tant est que le mouvement dont vous parlez a été créé par Madame Nyakade, je ne crois pas, je ne sais pas où est la difficulté, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas un test qui empêche d'autres citoyens de créer d'autres mouvements. Donc ceux qui s'agitent, je pense qu'ils auraient pu, depuis là, s'ils pensent que Madame Nyakade est minoritaire ils ne sont plus en odeur de sainteté avec elle, ils peuvent aller créer leur mouvement depuis et commencer depuis juillet là, je pense, faire la promotion de leur mouvement, et peut-être qu'aujourd'hui on est pratiquement en septembre, leur mouvement peut-être serait déjà connu. Donc moi je ne vois pas où est le problème. Donc à moins qu'il y ait derrière les gens qui veulent retirer ce mouvement à Madame Nyakade, qu'il y ait d'autres plus puissants, et que véritablement ce mouvement soit un mouvement assez important, assez influent, et si on la laissait à Madame Nyakade, ça créerait d'autres soucis. Sinon, au fond, je ne vois pas quelle est cette bataille autour d'une association future, un mouvement politique.
Non, bon, il faut que je dise la vérité. Moi, je ne connaissais pas ce mouvement. Je n'en avais jamais entendu parler. Sauf que c'est à la dernière fois sur les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a pu voir, que j'ai su qu'il y a un mouvement qui existait depuis et qui travaillait. Honnêtement, je n'en ai jamais entendu parler, ni à la radio, ni à la télé, ni par voie de presse, jusqu'au jour où les gens ont écrit des trucs et ont annoncé qu'il y avait un mouvement que Madame Marguerite dirigeait, et que finalement... des gens, donc tout le folklore que j'ai vu là, c'est ça qui m'a permis de savoir qu'il y a un mouvement. À ce jour au plateau ici, je ne sais même plus qu'il y a encore des tractations au sein de ce mouvement, ou qu'il y a du rufiki, comme vous le dites, je n'en sais pas trop. Mais est-il que si le mouvement doit être un mouvement qui doit porter des changements ou apporter quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça rapporte, si ça veut faire quelque chose de bien dans une localité, ou au Togo, ou bien ça veut faire des œuvres sociales, ou quelque chose comme ça. C'est bien que tout prospère, nous on est là. On veut que tout marche bien dans le pays. On veut que les citoyens puissent bénéficier d'un mouvement de ce genre qui puisse leur apporter un accompagnement à tout niveau. Bon, moi je voudrais dire quelque chose qui me tenait à cœur. Djakouti a dit que par rapport à l'assainissement ou bien au climat des affaires dans le pays, il faut que le Togo ait des Dangote, il faut que le Togo ait les Bukongo, tout ça là. Mais je voudrais dire à ce plateau que les Togolais, eux-mêmes, ils sont mauvais. Quand les gens créent les entreprises et ils voient que quelqu'un veut émerger, ils lui créent des problèmes. Eux-mêmes, ils creusent les trous, ils s'enterrent. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avoir des gens qui décollent, qu'on n'arrive pas à avoir de ces Dangote là. Parce que les Togolais, je ne sais pas ce qui les mine, ils n'aiment pas voir leurs frères prospérer. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous prend. Il faut que les gens se surpassent. On aura les Dangote. On aura tous ces gens.
Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs, puisque nos auditeurs nous ont écoutés pendant pratiquement une heure de temps. Et donc, nous allons leur donner la parole. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Canal FM. Retour dans cette émission Club de la presse de ce lundi. Vous pouvez maintenant nous appeler sur le 22 21 33 74, 22 21 33 74, 91 36 63 75. Allô.
Ah oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Didier. Oui,
comment
bonjour
vous allez?
Plateau, bonjour le second journaliste aussi.
Oui, bonjour.
Bon, je vous l'ai dit, mais sacré Tanyahu. Donc, ce qui veut dire que le chef de l'État, si nous, le chef de l'État est parti à Evala parce qu'il est Kabila, il est du milieu. La dame Premier ministre est partie à Vogan parce qu'il est du milieu. Et nous qui n'avons pas de Premier ministre, ni président, ni président de l'Assemblée, ni officier supérieur dans nos régions. Donc, nous sommes à la merci de tout le monde. Si le chef de l'État est parti là-bas en tant que Kabila, pourquoi n'est pas, il est parti avec les attributs de l'État, l'escorte, voiture, tout. Il pourrait aller là-bas avec son Batakali et puis deux personnes et puis retourner. Là, on sait qu'il est parti en tant que Kabila. Donc, on voulait qu'au Togo, nous serons sur le même pied d'égalité pour pouvoir construire une nation solide et prospère. Mais tant que nous ferons les choses avec sélection, cette façon, le pays-là ne marchera jamais. Et puis, secondo, je voulais demander à M. Tanyahu, il y a une histoire, il y a les trucs qui se passent au Gabon, pourquoi vous n'en parlez pas? L'élection au Mali, ou bien parce que c'est notre ami national, qu'on ne veut pas mettre sa bouche dedans. Et puis, pour finir, vous êtes sûr que le pouvoir avait créé des Dangote au Togo? Vous avez vu ce qui s'est passé sur Bertin? Agba, vous avez vu ce qui s'est passé sur Seco? Vous connaissez bien l'histoire puisqu'on ne peut pas le dire à la radio. Vous êtes sûr que le pouvoir veut créer des Dangote pour pouvoir le déranger? Soit vous restez en bas, ils sont au pouvoir et moins ça, tant vous prenez. Mais une fois que vous allez approcher de l'arbre, il y a un problème. C'est comme ça, ce que la France. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Didier. 22 21 33 114. Allô?
Oui, allô?
Bonjour, comment vous allez?
Oui, je vais bien, Mathieu Davenou.
Mathieu Davenou, allez-y, Mathieu.
Oui, je vais intervenir sur deux points.
Allez-y.
Le premier point, c'est un vieux constaté. Oui, la semaine dernière, vous avez beaucoup parlé des conditions des parents d'élèves pour la rentrée. Je vais donner un exemple d'une école, l'école Mariam. Et il y a des gens qui demandent au directeur de l'école d'augmenter le collage parce qu'il suggère que d'autres élèves viennent qui viennent des parents qui ne sont pas nantis comme eux. Ce que je vous dis, ça va paraître ridicule, mais j'ai des preuves de ce que je dis. Et c'est le directeur qui en a parlé à quelqu'un qui m'a dit aussi. Donc, que nos frères et sœurs qui ont un peu de moyens, qui ne pensent pas qu'ils doivent vivre seuls. Nous partageons les mêmes eaux, nous partageons le même air, on vit le même air. Donc, leur vie n'est pas différente des vies des autres, de grâce. Donc, le deuxième point...
Oui, deuxième point.
Oui, le deuxième point, c'est par rapport au casque. J'allais prier, ça, ce n'est pas encore au ministre de dire ça à nos forces de sécurité d'ordre, hein. Et ils doivent comprendre que les casques qui ne sont pas noués sont considérés comme non portés. Donc, au fur et à mesure, j'interpelle les gens, quand quelqu'un n'a pas noué le casque, ils doivent le descendre aussi de sa moto. Comme si c'est quelqu'un qui n'a... Ils doivent même le punir la personne. Puisque quand, en voulant tomber, tu seras tenté de protéger, de tenir le casque contre sa tête. Donc, il y a plus de déséquilibre que quelqu'un qui n'a même pas de casque. Donc, ils doivent prendre soin vraiment de veiller à ça. Ceux qui ne voient pas leur casque. Merci bien.
Merci beaucoup, Mathieu. 22 21 33 114. 91 36 63 75. Allô.
Allô.
Bonjour.
Bonjour, le plateau.
Bonjour, comment vous allez?
Je me porte très bien.
Le nom, c'est Arma. Arma. Allez-y, Arma.
Il faut dire que l'initiative de la campagne pour les passagers de porter leur casque est bienvenue. Mais il va falloir que, comme l'ont dit beaucoup sur le plateau, il faut qu'on aille graduellement, qu'on puisse faire comprendre un tant soit peu les bénéfices que cette campagne va apporter. Parce que nous, aujourd'hui, le nombre d'accidents et surtout le nombre de décès et de blessés graves, c'en est de trop. Il va falloir un tant soit peu chercher les voies et moyens pour diminuer tout ceci. Et vraiment, il faut qu'on aille graduellement, parce que nous, nous n'ignorons pas que nous sommes à quelques pas de la rentrée. Les bourses, les familles, bon, les revenus ne sont pas tels doivent être, et maintenant demander encore aux familles de débourser pour des casques et autres. Bon, l'État doit aider un temps, soit peu, la population à trouver quelque. C'est vrai que on peut demander aux concessionnaires, ceux qui amènent les motos, de donner des casques. Bon, pour trouver des mécanismes pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager, vraiment réduire le prix de ces casques.
Armand, merci beaucoup. Le message est passé. 22 21 33 114. Allô. Bonjour, comment vous allez?
Ça va,
monsieur Gado. Gado, allez-y.
Bon, moi, je voudrais dire à monsieur Dédé de patienter. D'ici 2030, quand je serai là, je vais fêter avec tout le monde. Bon, ça passe. Bon, qui aimerait être à la place de Macron parmi vous dans le plateau? Bonjour et bonne journée.
Décidément, monsieur Gado. Allô.
Oui, bonjour, chef.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, je vais très bien chez vous.
Ça va aussi. Le nom, c'est?
C'est Sylvain.
Sylvain, allez-y.
Oui, effectivement, les compatriotes peuvent relever ce défi si les autorités le souhaitent. Et Jacques vient de dire qu'il faut aller graduellement. Et parce que la rentrée, c'est bientôt. Il faut qu'on nous laisse faire la rentrée d'abord. Les fournitures sont chères au marché. C'est une bonne chose. Qui veut la mort? Personne ne veut mourir. Donc, il faut qu'on aille avec la pédagogie. Même ce système peut prendre effet à 2024, il n'y a pas de problème. Continuez à nous sensibiliser, parce que la rentrée, c'est bientôt. L'histoire des casques même, est-ce que vous avez investigué?
Allô, Sylvain? Il est parti. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô.
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez? Le nom, c'est?
C'est monsieur David.
Monsieur David, vous nous appelez de quel quartier? À Goué. Oui, oui, salut, allez-y.
Oui, je veux réagir sur le sujet des cartes là. Je vous invite aussi à parler de la qualité des cartes. Parce que les cadres que nos parents portaient au moment des fêtes, c'est plus ça maintenant. Les cadres ne sont pas en bonne qualité. Vous tenez une casse à la main, même si tombe sur ça se casse. La chose la peut nous protéger.
On en avait parlé hein, sur le plateau ici.
Par rapport au placement de la Banque mondiale, ma question à M. Tchayao, il est aussi, lui aussi vit dans la minorité ou bien dans la majorité. Est-ce que ces rapports-là, ça se prend dans la période de la majorité au Togo? Nous, nous sommes affamés au Togo, on me dit que les réformes, ça va au Togo. Rien ne va au Togo. Moi, je ne comprends pas sur quels critères ces gens-là se basent et ils font des rapports comme ça. Moi, je ne comprends pas rien.
David, oui, merci. Mais il y a des critères bien définis, hein, bien définis. Alors, pour ce classement, 22-21-33-114. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Oui, je vais bien. C'est Yannick.
Yannick, vous nous appelez de quel quartier?
Je viens d'Agoué.
Agoué. D'accord, Yannick, allez-y.
C'est pour parler concernant les affaires, leur affaire de porter les casques là. C'est pas ça qui va réduire les accidents.
Non, en fait quand vous dites leur affaire de porter le casque, je pense quand même que c'est pour les citoyens.
Oui, oui.
Ce n'est pas leur affaire.
Ok. La loi de porter les casques là, ça ne va pas réduire les accidents. La loi qu'il faut introduire dans ça, c'est de dire aux motocyclistes de ne pas rouler à gauche. Les gens qui sont en moto doivent rouler à droite et ceux qui sont en voiture roulent à gauche. Maintenant, quelqu'un est en moto, il est à gauche. L'autre sont au milieu. Tu les classes, il te dit de les traverser. Avant de les traverser, tu dois les ramasser d'abord. Il faut revoir ça. Et puis bon, je vois que les choses vont changer. Maintenant, quand il y a aussi le deuxième problème que nous avons actuellement, quand on avait attendu que le ministre de l'Éducation a fermé certaines écoles, les écoles ont augmenté le prix de l'école des enfants. Actuellement, d'autres ont augmenté 10 000, d'autres 15 000. Tout ça là, on demande l'État de voir dedans.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Yannick. 22 21 33 114, le dernier auditeur. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Merci, chez vous.
D'accord, ça va aussi. Le nom?
Gérard, qui vous appelle?
Gérard, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Niekonak.
Niekonak, oui, allez-y, Gérard.
Merci. D'abord, moi, je voudrais dire que ce n'est pas une affaire de caste aujourd'hui. Je suis très surpris que nous sommes à un an dépassé, ou deux ans, ou bientôt trois ans. Le ministre de la Sécurité a parlé de permis A. Et ce permis A n'a pas été suivi jusqu'à un certain moment. Les gens continuent de rouler dans l'incivisme et aussi le code mal maîtrisé ou non maîtrisé. Et aujourd'hui, les journalistes n'en parlent pas. On dit c'est d'accompagner le gouvernement dans cette sensibilisation de port de casque. D'accompagner. Ben, j'espère qu'heureusement, vous ne demanderez rien comme l'accompagnement de Covid. D'accompagner, moi j'entends ça. Depuis que cette affaire est sortie il y a quelques jours, c'est devenu le chou gras. Les médias en parlent. On ne voit pas ceux qui ont sorti ces textes pour pouvoir mieux sensibiliser ou bien nous parler et que les journalistes puissent leur poser la question et dire, mais il y a quelques années, vous avez parlé de permis. Qui maîtrise? On monte une moto, on roule n'importe comment. Il n'y a pas cette conscience-là de s'arrêter au feu rouge. Même ceux qui ont le permis et qui roulent à moto, permis voiture et qui roulent à moto, par moment, ils brûlent le feu. L'incivisme, c'est bien, vous en avez parlé. Et quand on dit, allez au Rwanda, vous allez voir, c'est systématique. Oui, mais est-ce que vous voulez incriminer ceux qui dirigent aujourd'hui le pays pour dire qu'ils n'ont pas fait, il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, leur travail, et que les gens sont sensibilisés ailleurs, ils le font pratiquement comme c'est inné, et chez nous, paf, après, on dit, c'est la France, les Français, les Européens. Je vous en prie, il faut que nous-mêmes en Afrique, nous soyons des gens de metteurs d'ordre dans notre corps, notre âme, notre esprit. Et puis tout va simplement, c'est comme dans la Bible, quand vous respectez les 10 commandements, vous allez vous dire que je suis proche de Dieu. C'est tout. C'est tout.
Merci beaucoup Gérard. Je pense que Gérard, c'est le dernier auditeur que nous avons reçu alors pour le compte de cette émission de ce lundi. Alors, Tchanao, c'est vrai que les uns et les autres sont revenus alors sur le port de casque, mais il y a Didier d'abord qui vous a posé une question concernant surtout le fait que vous avez dit que le chef de l'État était bien évidemment aux Evala, et il y a le madame le Premier ministre également qui était à Dinoukouzan, et parce qu'ils font partie également alors de ces localités, mais et que peut-être eux qui n'ont pas quelqu'un également dans le gouvernement, comment ça doit se passer?
Je voudrais souhaiter bon appétit à mon ami Didier et l'encourager à chaque fois que je passe ici de m'édifier ou d'attirer mon attention sur certains faits. Mais j'ai l'impression qu'il ne m'a pas compris. J'ai dit, puisque on disait, vous demandiez si le chef d'État ne devrait pas être partout.
Tout à fait.
Qu'on l'a toujours vu seulement aux Evala. Et j'ai dit que là, il faut que le chef d'État arrive en ces moments précis à se dupliquer en plusieurs personnes, parce que les samedis que nous connaissons depuis début août jusqu'aujourd'hui, tous les samedis sont consacrés à des fêtes traditionnelles, pendant que les gens fêtaient à Voi, il y avait d'autres localités où il y a eu fête. Et je disais que le PR, le président de la République, c'est quand même quelqu'un qui a un agenda très très chargé, qui ne peut pas répondre partout. Maintenant, on a parlé de la chef de gouvernement. J'ai dit oui, elle également, elle était chez elle. Parce qu'avant tout, c'est là-bas, c'est chez elle. Elle aurait voulu être aux autres fêtes, comme le président de la République aurait souhaité participer à toutes les fêtes. Si je veux être clair, Madame Dobé a été à plusieurs fêtes.
Tout à fait.
Il y a des fêtes où, quand il y a l'occasion, elle y va au nom du gouvernement. Mais il n'y a jamais eu une fête dans une préfecture sans que le chef de l'État désigne un ministre pour représenter l'État. Quand bien même il y a des ministres natifs ou natives de ces localités, on y envoie un toujours pour représenter le président, qui ne peut pas se dupliquer. Et la première ministre également, qui ne peut pas se dupliquer. Donc, c'est pour dire que si le président veut aller à toutes les fêtes, je vous assure qu'il va passer une année. Il ne va plus travailler en tant que président, il ira seulement fêter. Voilà ce que je disais. Et il a parlé également Didier a parlé du Gabon.
Du Gabon.
Que pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas aujourd'hui? c'est parce qu'on n'a pas amené le débat sur le Gabon, qu'on n'en a pas parlé, on ne peut pas l'improviser. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'on doit discuter ici.
Tout à fait.
Mais c'est l'animateur qui n'en a pas abordé.
Je suis d'accord.
On ne l'a pas fait. Bon midi, Didier.
Didier.
Non, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense que pour l'essentiel, les auditeurs ont compris ce que nous avons dit. Et je pense qu'il y a d'autres sujets qui ont été posés qu'on n'a pas véritablement abordés. Je pense que pour la question, par exemple, de l'augmentation exponentielle des frais de scolarité au niveau de certaines écoles privées, je pense que le ministre Kokoroko, il est à l'écoute. Je pense que des initiatives sont prises déjà dans ce sens pour que les écoles privées puissent plafonner les frais de scolarité pour que des gens ne mettent pas dans les excès. Donc, je pense que cette affaire est sérieuse puisque les auditeurs reviennent dessus. Il faut que les autorités prennent véritablement la mesure de la situation pour que dans les jours à venir, tout le pays soit fixé, soit situé naturellement sur ce que va être les augmentations au niveau des écoles privées.
Jacques
Non, je n'ai pas assez de commentaires à faire. Mais une fois encore, interpeller la ministre qui est chargée de l'INAM. Je crois que c'est Madame Myriam Dossou.
En fait, c'est la directrice.
La directrice. Donc, je crois que, madame, il y a encore un problème. Il y a un problème parce que les compatriotes se plaignent. Il faut reformer l'INAM. C'est-à-dire qu'il y a les compatriotes qui vont dans des pharmacies et il y a certains produits qu'elles n'arrivent pas à couvrir avec INAM. Et ça crée vraiment des problèmes. Madame, il faut essayer de revoir cet aspect-là. Il y a les compatriotes vraiment se plaignent par rapport au service de INAM. J'ai suivi une vidéo cette semaine où une dame se plaignait, où la dame disait que quand vous allez, on ne peut pas vous servir par rapport à certains produits. Il faut reformer INAM. Ça, c'est très important pour que nos compatriotes vraiment puissent avoir accès soit à ces médicaments ou ne pas l'avoir sur les pharmacies. Une fois encore, de demander à madame de revoir effectivement les services d'INAM. Voilà. Reformer INAM, c'est très important.
Jacques, nous restons avec vous pour votre carton de fin d'émission.
Je n'ai pas de carton. Souhaiter beaucoup de courage à ceux qui sont actuellement dans les hôpitaux, qui sont en train de nous écouter. Leur souhaiter une bonne guérison.
Merci beaucoup, Didier. Votre carton de fin
d'émission. Pas de carton, bonne chose. Bonne semaine à tous les Togolais qui nous suivent.
Merci beaucoup à vous, Jacques. Merci d'être passé dans cette émission. Didier, merci. Merci à Rimiao Tsanao d'être passé aussi dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Alors, demain déjà mardi, c'est mon confrère Fosséni Saïbou plutôt qui vous retrouve pour un nouveau numéro de Club de la Presse.